Club des Chineurs.
Bonjour et bienvenue dans le 33e Club des Chineurs, votre émission consacrée aux disques vinyles. Ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio Pays d'Hérault quelqu'un que vous croiserez très souvent dans les bourses aux vinyles du coin. J'ai nommé René Beaufort. Comment ça va, René?
Impeccable. Bonjour à tous.
Parle bien du micro pour qu'on t'entende. Merci d'avoir fait le déplacement depuis. Plus loin que Béziers, donc tu as fait de la route quand même pour venir. Merci à toi de t'être joint à moi. René, je t'ai connu quand tu tenais avec ta femme le magasin La Carterie dans l'allée de la Flânerie au Cap d'Agde, dans laquelle tu vendais des cartes postales et pas que des cartes postales, puisque au fond du magasin, il y avait des bacs de disques. T'as tenu ça pendant combien de temps? 25 ans, non?
Ouais, à peu près 25, 26, je crois, hein, quand même.
Tu m'as dit que 88, je crois. 88 ouais. À 2016?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça fait quand même une sacrée période.
Ouais,
moi, j'étais à Paris à partir de 96, mais quand je redescendais dans le sud, je passais souvent faire un tour par chez toi, voir les bacs de 33, de maxi et de 45 tours. Mais avant ça, t'as tenu une boutique de disques, une autre boutique de disques à Béziers. C'est bien ça, avec ton frère, au début des années 80.
Voilà, c'est ça. On était sur Paris, donc on est descendu fin 79, et on a commencé à monter un petit magasin. Et il était au fond des allées Paul Riquet, rue Bagatelle.
Ouais.
Donc, on a commencé comme ça, un peu comme ça. On savait pas.
Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de monter un magasin de disques?
Donc déjà à Paris, j'étais beaucoup dans les disquaires.
Ouais.
Chez les magasins de disques et tout, je fréquentais beaucoup et ça m'a plu. J'aurais dit, ils le font à Paris, pourquoi je le ferais pas ailleurs? Et bon, mon frangin était d'accord pour descendre avec moi. Et donc, on a tout abandonné et on est descendu sur Béziers.
Ouais, t'étais salarié, t'as quitté ton travail, t'as démissionné pour une boutique de disques. Ouais, ouais. Ça marchait bien à l'époque, le disque, au début des années 80. Bon, de toute façon, le support vinyle, il y avait que ça avec la cassette.
Ah oui, oui, en plus, ouais.
Tu vendais de la cassette aussi?
Oui, j'en ai vendu, oui, oui. Ah ouais, ouais.
On va continuer à parler de ta vie au fur et à mesure de l'émission, parce que voilà, t'es collectionneur depuis 1976, tu m'as dit. Mais j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu nous présentes le premier de tes deux disques de chevet, parce que je t'ai imposé d'amener certains types de disques, à savoir des disques de chevet, les premiers disques achetés, des raretés, tes plaisirs coupables, parce qu'on en a tous, et ainsi que des nouveautés. Donc, quel est le premier disque de chevet?
Donc j'ai choisi.
On va écouter.
Ouais, alors quelque chose qui est pas du tout du rock et tout, et on va aller dans le 17e siècle, c'est ça, avec les.
Je crois que c'est ce qu'on a vu, ouais. Gars qui a vécu au 17e, ouais. Jusqu'au début 18e.
Donc avec les canons de Pachelbel. Donc un morceau qui a été repris après en pop. Hein. Il y a les Aphrodite-Child qui l'ont repris.
Sur 666?
Non, avant. C'était okay. Red on Tears, leur premier grand tube.
Ok, ok.
Fait en plus par Boris Bergman, déjà.
Très bien.
Et tout. Et donc, il l'avait adapté et ça avait eu un très, très gros succès en 68, quoi.
Eh ben, je m'attendais à du rock années 60, puisque tu es collectionneur de ce style, mais on va commencer par du classique.
Thank you.
Françoise Hardy dans le Club des Chineurs. Aujourd'hui, je suis avec René Beaufort, qui est disquaire ambulant, qui a tenu des magasins à Béziers et au Cap d'Agde. Donc là, c'était ton deuxième disque de chevet, ou un disque que tu emmènerais sur une île déserte.
Voilà, oui.
Ou que tu sauverais du feu ou d'un dégât des eaux.
Ouais, exactement.
T'as quelque chose à dire sur ce morceau de la regrettée Françoise Hardy?
Pour moi, c'est un des plus beaux morceaux qu'elle ait enregistré et qu'elle ait fait elle-même en plus. Elle a fait les paroles et la musique.
Ah ouais, elle faisait tout, elle.
Ouais. Et je le trouve super beau, quoi.
Ouais. Ouais, bah, comme beaucoup de choses qu'elle a fait, comme quasiment tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, d'erreur de goût. J'ai acheté récemment un album composé par Gabriel Yared et Michel Jonas, l'album Gin Tonic, où il y a des morceaux un peu plus entraînants, on va dire.
C'est plus jazz, et c'est un peu...
Ouais, jazz et un peu funky. Et... Alors, elle disait qu'elle n'était pas à l'aise dans ce style-là, mais voilà, l'album, il est bon, quoi. Franchement, cette femme... voilà. Belle carrière.
Ouais.
Alors on va commencer par le commencement. Donc t'es né dans les années 50. Ouais. T'es né avec le rock, hein, presque.
Ouais, exactement, avec.
À un ou deux ans près. D'ailleurs, moi j'ai déjà ma petite idée, mais toi qui es un spécialiste du rock and roll des années fin 50, enfin ouais, deuxième moitié des années 50 jusqu'au début des années 60. Pour toi, quels sont les disques fondateurs du rock and roll?
C'est Elvis Presley, donc les premiers enregistrements qu'il a fait, That's All Right Mama.
Ouais.
Et après.
Chez Sun Records.
Ouais, vraiment, c'est le début. Mais après, il y a donc Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fast Domino, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est même mon préféré.
Oui.
Et après d'autres qui sont venus après.
Chuck Berry.
Bien sûr.
Richard, tu l'as cité, je crois, déjà.
Ouais, ouais.
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly,
ouais, voilà,
Bill Haley,
tous les grands et beaucoup d'autres, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup de productions dans ces années-là, et il y a plein de choses à découvrir et tout, hein. Et même après chez les Anglais, hein, écoutez Billy Fury, Cliff Richard, des gens comme ça, ils ont fait des très 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 bons trucs, hein, très rock and roll et tout, hein.
Alors j'ai lu sur internet qu'un disque qui a beaucoup influencé le rock and roll, c'est un disque de Jackie Brenston and his Delta Cats, sorti en 51, Rocket 88, dont la musique a été faite par Ike Turner. Tu connais ce morceau?
Non, je connais pas, non.
Bon, alors il y a d'autres musicologues qui disent que c'est plutôt du shuffle et pas vraiment du rock, mais enfin bon, ça, il aurait influencé notamment Sam Phillips, qui a fait enregistrer
Elvis,
ouais. Donc ça fait 70 ans que cette musique existe, et tu as toi t'es spécialisé dans le rock anglo-saxon, t'as aussi un peu de rock français, et tu as 1045 tours et en édition française, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
Pourquoi les éditions françaises, pourquoi le rock'n'roll, pourquoi
ben le rock'n'roll, parce que ça
c'est la musique de ton enfance.
Voilà, pas trop,
non, pas
en
trop.
Fin de compte, hein. Non, j'écoutais plutôt les Beatles.
La pop.
Ouais, la pop et tout. Mais après, c'est grâce quand même aux Beatles que je suis venu au rock'n'roll avec leurs morceaux qu'ils avaient repris de Chuck Berry, rock'n'roll, musique, quoi. Et là, ça a commencé à... Ça m'a plu. J'avais 10 ans, hein. J'étais jeune. Et après, j'ai cherché à connaître tous les grands, Presley et toute la compagnie, quoi.
Alors venons-en maintenant, deuxième respiration musicale, venons-en aux deux premiers disques que tu as achetés. Peux-tu nous présenter le premier, bon, qui est un groupe inconnu?
Ouais, presque inconnu.
Presque inconnu, ouais.
Donc c'est les Beatles, c'est la ballade de John et Yoko, qu'ils ont fait presque juste avant leur séparation. Et je trouve c'est un très bon morceau et tout. Et j'avais acheté parce que ça m'avait plu à l'époque, quoi.
Tu l'avais entendu à la radio?
Ouais, j'avais entendu à la radio. Et aussi, j'avais un copain qui était très branché là-dessus, qui était parisien, lui, et qu'on se voyait en vacances et tout. Et il avait déjà tous ses bons disques et tout. Il était très en avance sur moi, qui était de la banlieue parisienne. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert beaucoup de choses comme ça.
Les disques des Beatles devaient être faciles à trouver, mais les autres?
Oui.
On trouvait de tout en 69 à Paris.
Oui, on trouvait tout.
Ah ouais.
Ah ouais, ouais. Il y avait sur les Champs-Élysées, il y avait un magasin spécialisé dans les imports.
C'est pas Champ Disque?
Non, ça s'appelait, c'était Lido Musique.
Ah, ok. Voilà. Ah, bah, j'ai souvent vu des pochettes plastifiées avec le logo de Lido Musique.
Voilà, c'était.
Je dois en avoir chez moi.
Qui était très, très en avance, enfin, qui avait toutes les productions anglo-saxonnes. De par le monde, quoi.
Très bien. Bon, mais Axel, quand tu veux, pour la balade de John et Yoko des Beatles. Merci.
I'm a man. papa, ma mama.
Looky, 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 ain't she pretty, 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 she my baby.
Mama, papa, ma mama.
It was only yesterday I met her walking down my way, my baby.
Mama, papa, ma mama.
Looky, looky,
looky, looky,
she's my baby. Looky, looky,
looky, looky,
she's my baby. Looky, looky, papa, looky, looky, she's my baby.
Ma mama, papa, ma mama.
Il y a de la continuité entre les différentes émissions du Club des Chineurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, puisque mon invité, la semaine dernière, a ramené, je dis ça, maintenant j'ai un doute. En tout cas, c'était une émission sur le disco, et Giorgio Moroder, je ne savais pas que... Enfin, je le savais, mais j'ignorais qu'il avait fait ce genre de pop...
Pop à l'anglaise.
Ouais, ouais, ouais.
Fin des années 60, ouais. Mais après, ouais, c'est complètement...
Je le savais, mais je n'avais pas écouté, on va dire.
Ah,
voilà.
Disons.
Ouais, voilà.
Donc après, il a fait beaucoup de choses, quoi, et surtout la musique du film Midnight Express, quoi, qui est vraiment un chef-d'œuvre et tout. Hein.
Ouais.
Qui a eu l'Oscar de la meilleure musique de film et tout.
Exact, hein. De Alan Parker, il me semble,
ouais,
le réalisateur. Ouais, magnifique. Chase, le morceau Chase, le titre éponyme. On a parlé de ton enfance à Paris, enfin ton adolescence, quand tu as commencé à acheter des disques. Tu as commencé à collectionner sérieusement à partir de 1976. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie comme ça d'accumuler des dizaines, des centaines de disques spécialisés dans ces...
Ben disons que c'est comme tout...
Dans ces thèmes-là.
Ouais, comme tout collectionneur. On a commencé... Enfin, j'ai commencé à acheter quelques disques, non, que je trouvais pas cher. D'abord, bon, les premiers Phase Domino, des choses comme ça. Et après, j'ai essayé d'en avoir le plus possible, d'avoir le plus... enfin, essayer de faire des collections de chaque interprète, comme Elvis, d'avoir tous les Elvis, tous les Chuck Berry, tous les Cochrane et tout ça. Et petit à petit, ça nous emmène dans des... Comme tout collectionneur. Hein,
mais tu les passais en soirée avec les copains ou pas?
Ma collection, j'ai toujours fait pour moi, quoi. Hein.
Ok.
Bon, j'ai fait découvrir à d'autres personnes, mais c'était surtout pour moi, quoi.
Et cet amour de la musique t'a amené, en 81, à participer à l'éclosion des radios libres.
Voilà.
À l'époque où tu étais déjà installé dans le sud de la France.
Oui.
Tu peux nous parler de ton expérience? C'était Radio Ciel Bleu, de mémoire, ouais. Radio Piment, Radio Peinard.
Ouais, voilà. Radio Ciel Bleu au tout début. Après, on a monté Radio Peinard, qui est devenu Radio Peinard Skyrock.
Tu faisais partie des gens qui ont monté ces radios-là, ok.
Ouais. Voilà. On était dans un petit studio et après, bon, on a continué. Après, on avait déménagé, on avait déjà un beau petit truc. On pouvait se permettre d'inviter pas mal d'invités. Et bon, et après, je suis parti parce que j'étais en désaccord avec...
Il y avait des moyens financiers au début des années 80 pour les radios libres?
Oui, après, il y en a eu quand même. Hein. Bon, après, il y a eu M. Santa qui est venu nous aider à Radio Peinard, qui a commencé à investir. Et là, on avait ici, il y avait un beau studio. D'ailleurs, il est toujours là, c'est toujours le même.
Ah hein. Oui. C'est devenu Skyrock, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Et qu'est-ce que tu y faisais dans cette émission? Tu faisais la programmation, ouais. Tu avais une émission?
Oui, donc je m'occupais des programmes.
Technicien?
Non, je m'occupais des programmes du soir. J'étais responsable de tous les programmes du soir. Et bon, je faisais beaucoup d'émissions, quoi. Bon,
musicales ou autres?
Autres aussi, hein. Musicales, oui, beaucoup. Et là, je présentais tous mes disques de rock'n'roll. Je faisais une émission spécialement sur le rock'n'roll.
Okay.
Mais après, on faisait des émissions l'après-midi entre les lycées. On confrontait les lycées.
Ouais, comme sur Radio Pays d'Hérault.
Mais je crois que ça continue. Hein.
Radio
et après,
Pays
on faisait aussi des émissions d'humour et tout, le soir et tout. On déconnait un peu comme ça se faisait et comme ça se fait toujours, je pense. Hein.
Ouais. Ouais. T'étais salarié, donc j'imagine.
J'étais en partie salarié. Ouais.
Ok. Et ça a duré combien de temps, cette aventure?
Moi, sur Radio PNR, 4-5 ans, quoi, ça durait.
Tu faisais ça en parallèle, donc, du magasin que tu tenais à Béziers avec ton frère, puis avec ta femme.
Voilà. Et je faisais aussi des mariages, des animations de mariage, de choses comme ça.
En tant que DJ-jockey?
Ouais, DJ-jockey, ouais.
Ok. Ah, ben, je savais pas.
Ah, si, j'en ai fait, ouais.
Ouais, bah, comme tous les amateurs de musique, finalement, tu, voilà, au bout d'un moment, tu finis par être derrière des platines, hein.
Ouais, c'était marrant, moi j'ai bien aimé. Hein.
T'avais quoi, une disco mobile?
Oui, c'est ça.
Okay.
Et je travaillais aussi pour un traiteur. Un traiteur, Monsieur Cérus, non, je sais pas, il était très connu à l'époque. Hein, je sais pas,
si j'avais su ça, je t'aurais fait passer des disques au salon du vinyle d'Agde.
Ah ouais,
ouais. Je savais pas, tu vois. Alors, bon, forcément, tu collectionnes depuis 1976. C'est quand même assez hallucinant, ça fait 50 ans.
Ouais.
Et 1000 disques, dont 800 éditions françaises de rock anglo-saxon, 200 éditions françaises de rock français, tu dois avoir quelques raretés dans ta discothèque. Ouais. Mais c'est pas par du rock là qu'on va attaquer. Quel est le premier artiste, quel est le premier disque rare qu'on va écouter? Alors, le titre, c'est pas celui que j'ai noté, hein, mais.
Ouais.
Bon donc, courage pour le répéter.
C'est toi qui viens de répéter.
C'est à moi de le dire. Ouais. Ouais, non, je te laisse présenter l'artiste. Ouais,
donc
je te laisse parler de l'histoire de ce disque aussi.
Ouais, donc
disque très rare.
C'est Prince, donc, le Black Album, sorti en 1987, hein, c'est ça?
Ouais.
Donc, qui a été mis au pilon. Parce que Prince ne voulait plus en entendre parler.
Ouais, il a pété un plomb.
Ouais, il a pété un plomb. Et donc c'est sorti. Il y a eu quelques exemplaires qui ont été sauvés du massacre. Et bon, j'ai pu en récupérer un et tout. Mais après donc ce disque quand même, il a été réédité.
Ouais, il est ressorti en 94 officiellement.
Ouais.
Et il a été piraté comme tu le disais.
Et après il a été piraté et tout.
Ouais, ouais. Alors le titre du morceau Super Fragile Cold Sexy, il me semble, sorti donc en 1987 chez Warner et retiré des ventes tout de suite après. Cause you ought to keep the blood flowing down to your feet. Brother Maurice will be riling in a minute with a bucket filled in a squirrel meat. The blood real good if you drink it real fast, but the aftertaste just lasts and lasts. So if you're just somebody, you wanna party all night. Alright! Super fucker, califragisexy! Gonna be sensitive to the touch. The first person that touch you, you wanna fuck. You take them to your crib and you tie them to a chair. You make funny faces till they get real scared. Then you turn on the neon, then you play with yourself till you turn them on. Super fucking califragisexy.
A clown, cause I'm stripped down. It's all fun and games till the very next day till damn. You don't remember my name. Maybe I'll see you next Thursday night. Maybe I won't, but that's alright. Cause in my possession is a signed confession that says I was the best you ever had. Too bad. The speed is on time. Refined design to make you do the do. Thank you.
monsters. I want somebody to scream.
Doris Troy, Just One Look, sorti en quelle année, René?
Sorti en 1963, classé dans les parades américains en 1963, et surtout après, ça a été repris, elle a été, cette chanson avait par Linda Ronstadt.
Ah oui,
on avait aussi fait un succès dans les années 70, par contre, hein.
Et ça faisait partie de la série des disques rares que tu as ramené après le Super Funky Cal Fridge Sexy de Prince. Je crois que je suis arrivé à le dire.
C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas mal. Ouais.
Il est vraiment rare ce disque de Doris Troy.
Il est vraiment rare. L'apparition en France est rare, quoi.
L'édition française est rare.
C'est okay. Seulement sorti sur un single français.
Ah oui.
Donc c'est vraiment on le trouve que là, quoi. C'est pour ça que.
Sinon c'est sur album.
Ouais, c'est sur l'album, ouais, c'est sur un album.
Okay.
Et bon, aux États-Unis, on le trouve aussi, hein, en
ouais,
single.
Bon, ouais, bien sûr.
Il y a tellement de choses, quoi.
Ouais, toi, tu es spécialisé dans les éditions françaises.
Ouais, voilà, c'est pour ça.
Et qu'est-ce que tu as d'autre dans ta discothèque de très rare?
Alors, de très rare, bon, j'ai le Beatles, le Sandwich. Mais ça, il faut le dire à personne.
Donc, je vois pas ce que c'est.
C'est la réédition du premier 45 tours paru chez Odéon en France.
Hein. Oui.
Et ils sont habillés en français.
Oui.
Et avec un sandwich à la main et tout. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça.
Ah, ok.
Ouais. Donc c'est le plus rare des disques EP français.
Bon, on va pas dire où tu habites.
Ouais.
Mais déjà non. Que le Prince, il vaut le prix d'une voiture.
Ouais, enfin oui.
Ah bah si. Non mais c'est dingue, on a regardé avec Axel là sur Discogs, c'est un truc de fou. Il y en a 4 en vente. Il a été vendu jusqu'à combien on a vu, 15 000. Il a été vendu jusqu'à 15 000, mais il y en a qui le vendent 30 ou 40 000 euros. C'est un truc de dingue. Et quoi d'autre dans ta discothèque qui pourrait affoler les auditeurs, bon, les auditrices?
J'ai les premiers, mais là, c'est vraiment du rock'n'roll. C'est Johnny Burnett. C'est les premiers 45 tours, les deux premiers de Johnny Burnett.
Je ne connais pas.
Donc, c'est un très grand américain de rock'n'roll. C'est moins connu que les autres, quoi. Et après, j'ai les premiers Cochrane, premier Jane Vincent. Premier Buddy Holly, tous les grands, mais les premiers qui sont sortis en France.
Ils sont vraiment durs à trouver?
Ouais, ils sont très très durs à trouver. Avant qu'ils deviennent, en France, c'est devenu tard connu, ces artistes et tout. Et donc, les premiers, ils sont sortis en France en 57, 58.
Ah oui.
Mais personne ne les achetait, quoi.
Oui, parce qu'en fait, c'est Johnny qui a popularisé le rock en France en début 60, c'est ça?
Oui, c'est, oui.
60, 61, peut-être, Johnny, les chaussettes noires, etc., les chats sauvages, voilà. Ouais. Un petit coucou à mon père en passant qui est fan du rock français des débuts quoi. Et comme tout amateur de musique, tu as aussi des plaisirs coupables. J'adore cette séquence dans l'émission parce que on fait des découvertes rigolotes. La dernière fois, c'était la musique des Playmates du Colarocho avec Joseph. Et là, qu'est-ce qu'on va écouter? C'est un morceau, je sais, enfin moi je connais, c'est un truc italien.
Ouais, donc c'est la Bionda. Donc c'est One for Me, One for You.
One for Me, One for You, qui a été utilisé par Régilet, une pub pour le petit déjeuner dans les années 80. Les plus anciens reconnaîtront.
One for you. honey, let me hear you say.
Reason for the fighting, you would never. or Tweedledum.
Hey.
The true MacDougal always used to hum. While he was fighting his rival Ben McGregor, the son that he would never, the tartan of his pen.
Vous écoutez Les Rois Mages, mais en version anglaise, ouais. Sur Radio Pays d'Oro, RPH Sud. Un des plaisirs coupables de René Beaufort, mon invité du jour dans le Club des Chineurs.
Voilà, donc sorti en 1971 et qui a été repris par Sheila juste en même temps, quoi.
Ok, bah très rigolo. Après aussi le morceau de la Bionda, un duo deux frères italiens qui sont les précurseurs du son disco italien qu'on a appelé plus tard l'Italo Disco. Merci René pour ces amusantes découvertes. Donc aujourd'hui, tu continues à vendre du disque. Tu fais un peu toutes les bourses, les conventions, les foires du coin.
Ouais,
c'est ça.
Oui, voilà. Je me balade
avec ta femme.
Oui, voilà, exactement.
C'est cool.
Comme ça, je peux aller chiner en même temps et tout. C'est ça qui est agréable, quoi.
Et si vous nous écoutez, je vous invite à suivre les bourses au vinyle du coin. Il y a des agendas en ligne, sinon sur les réseaux sociaux, vous trouverez ça. Et puis allez rendre visite au stand de René, parce que non seulement il est sympa, enfin sa femme et lui sont sympas, mais en plus on peut trouver son bonheur pour 10 balles. T'as des bacs à 10 €, très sympa. Mais la dernière fois, j'ai trouvé deux Carole King, je crois. Ils sont magnifiques, ces albums. J'adore cette femme. Tout ce qu'elle a fait, ses 5-6 premiers albums, là, c'est vraiment des perles. Et voilà. On peut trouver son bonheur chez toi.
Voilà, exactement.
Je te fais de la pub gratuite. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité.
Ouais.
C'est la vérité. Et tu disais que, bon, c'est Martine, c'est ça, ta femme? Un petit coucou à Martine. Martine, elle reste, elle tient ton stand pendant que toi, tu vas chiner.
Voilà.
Parce que je te vois à chaque fois dans les 45 tours fouiner.
Voilà. Ouais, j'essaye, quoi.
T'arrives à trouver ton bonheur, toi qui collectionnes les 45 tours de rock?
Oui, toujours. Hein, toujours quelques trucs que j'ai pas. Hein, pas des trucs indispensables, mais j'aime bien compléter, quoi. Mais après, je fais d'autres choses, tout. Hein. Si je peux trouver un petit Kings ou un petit...
Oui, parce que Kings, c'est post-63.
Oui, c'est ça, oui.
You Really Got Me, ça date de quand? 64, 65?
Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, ils ont fait d'autres trucs plus pop dans les années 70, début 70. J'aime bien aussi tout ce qui est années 70, le début des années 70. Hein. Ça veut dire T-Rex, Gary Glitter.
Ah, le glam.
Voilà, le glam rock. Et tout, j'aime bien.
Ah, T-Rex, moi, je suis fan. Hein.
Ouais. C'est très bien.
J'ai découvert tardivement Marc Bolan, mais ouais, qui s'est tué en voiture, enfin avec sa femme Gloria Jones, celle qui a créé qui a chanté le fameux Tainted Love. Tu l'as celui-là, Tainted Love de Gloria Jones, qui a été repris après par Soft Cell.
Ouais, non, mais je l'ai pas ça.
Alors on va passer à la dernière série, mais une série qui sera composée du dernier disque acheté. Et puis l'autre, j'ai oublié, mais on va parler d'un des derniers disques que t'as acheté.
Voilà, c'est ça. Donc c'est
je te laisse le présenter.
Donc c'est un groupe de rockabilly anglais, des années 70. Bon, ils ont commencé dans les années 70, c'est le groupe Warwing. Mais là, on va vous passer un extrait du deuxième album de Warwing. Donc il était sorti en 1980. Et donc le morceau, je te laisse l'annoncer.
Midnight Blue. Ouais.
Say that I'm okay, but it's nighttime when I don't know what to do. But it makes me kind of wild. She's someone else's angel child. Here I am on my own. Midnight blue, midnight blue. Just the stars have seen me crying.
Merci d'être venu dans mon émission, le Club des Chineurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. On vient d'écouter quoi?
Alors, on vient d'écouter une version de Wuthering Heights de Kate Bush.
Pas mal, hein?
Ouais, très très bien. C'est bien produit, c'est bien arrangé. Et donc, c'est un guitariste donc qui refait des... qui réinterprète des morceaux. C'est Wax qui s'appelle.
Ok. Je sais
pas si tu connais, c'est auteur-compositeur, guitariste et tout. Et là, donc, il fait reprendre plein de morceaux avec des interprètes différents. Et là, donc, c'était Jane.
Eh ben, écoute, moi qui n'aime pas trop cette fille, là, je dois dire quand même qu'elle tient la route par rapport à l'original de Kate Bush.
Ouais, ouais, une bonne, belle voix et tout. Et l'arrangement est joli et tout derrière. Elle est simple, mais super efficace, je trouve.
Ouais, merci beaucoup pour tous les disques que tu as amenés. Allez, il nous reste une minute. Le temps de vous annoncer donc les deux prochaines bourses au vinyle qui auront lieu dans le coin. À savoir le Vinyl Market à la Gorge Fraîche de Béziers. Le samedi 14 mars, tu y participeras, René,
oui,
c'est ça?
Oui, je serai, oui.
Et le Salon du Vinyle d'Agde, même si je ne fais plus partie de l'organisation, je vais quand même leur faire de la pub, qui aura lieu les 21 et 22 mars prochains. Je pense que tu vas y participer aussi.
J'y participerai.
Et il ne se déroulera pas au Moulin des Évêques, mais au Nouveau Palais des Festivités.
Ouais, exactement.
Merci encore, René, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à Axel pour la réalisation, qui n'a pas l'air trop crevé après la grosse soirée RPH au Somnambule et à bientôt. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur rphfm.org et sinon c'est le quatrième lundi du mois de 17h à 18h et le quatrième samedi du mois de 21h à 22h. Merci beaucoup.
D'accord.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut.
Des Chineurs.